Bonsoir, merci d'être là pour ce débat, grand merci. Merci pour ce film dont vous allez nous parler. Donc je fais les brèves présentations des personnes qui sont autour de la table. Donc moi je suis donc Benoît Labourdette et j'ai animé l'atelier d'imaginaire de cet après-midi. Je suis cinéaste et vous avez vu Serge Tisseron, il y avait un petit problème de recadrage, il avait le front un petit peu coupé puis on ne voyait pas très bien en bas, je ne sais pas si vous avez vu Serge Tisseron qui est psychanalyste, comme vous avez pu le constater, qui travaille beaucoup sur justement cette question de l'imaginaire, comme il nous l'a expliqué, qui ne peut pas être là ce soir, qui s'en excuse. Et donc, c'était sa contribution au débat. Donc, c'est pourquoi on va faire un petit tour les uns après les autres. Donc, j'ai présenté Serge Tisseron. Je présente le commandant David Brunner à ma droite, qui est président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Gironde et vice-président de l'œuvre des Pupilles de France et du Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être là. À sa droite, Léonard Glowinski, le producteur du film qu'on vient de voir, de la société 22h22. Merci d'être là. Et puis, à sa droite, Éric Meyer. Éric Meyer est directeur général adjoint à la ville de Bègles. À sa droite, Sébastien Lavigne, qui est responsable du service de gestion des risques et crises à la direction de la prévention et de la protection des populations à la direction générale des territoires. Ça va ?
À Bordeaux-Métropole.
À Bordeaux-Métropole, tout à fait. Et Virginie Perroma, qui est chargée d'études culture du risque et résilience à l'AFPCNT, qui est parmi nous et on est co-organisateur de cette soirée. Alors juste, on va peut-être commencer par vous, Léonard Glowinski. Moi, j'ai une question à vous poser et puis une petite considération générale et une question à vous poser à vous et que je vous reposerai à chacun. Ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est la question de la place de l'imaginaire pour pouvoir mieux vivre sa vie réelle. Je trouve que ce film nous montre bien cette espèce de glissement entre imaginaire et réalité. Et souvent, on croit que la réalité, c'est quelque chose de concret. En fait, la réalité, elle se construit d'abord dans notre âme, dans notre tête. Et comment on peut, dans nos métiers, qui sont quand même peut-être à part le vôtre, mais qui sont très concrets, comment cet imaginaire, cette construction de soi, cette projection de qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait pas arriver, quelle place ça va prendre et quelle importance ça a. Alors comme vous êtes monsieur imaginaire ce soir, est-ce que, donc ma question pour démarrer avec vous, c'est cet imaginaire-là de la catastrophe naturelle qui va finalement être en écho avec le monde intérieur du personnage principal, bien sûr. D'où est venu cet imaginaire pour le cinéaste et puis pour vous, producteur, parce que s'engager quand même dans ce type d'imaginaire, c'est pas rien. Donc vous avez dû être porté par quelque chose et ça m'intéresse de savoir quoi.
Bonsoir. C'était une idée de Quentin, le metteur en scène, qui avait un vrai désir de raconter cette histoire. Alors, pour un peu répondre déjà à votre question par rapport à l'imaginaire et à la place du réel par rapport à l'imaginaire, moi en tant que producteur et Quentin en tant que cinéaste, on s'est beaucoup posé la question par rapport à ce film d'avoir envie de raconter une histoire. L'histoire d'Alex Lutz et d'André Dusselier, de ces non-dits entre un père et un fils, mais de la contextualiser dans ce que vous avez vu, à savoir cet incendie, et de la ramener du coup dans une vraie réalité que la région a connue un an après le tournage du film. Et je pense... Alors c'est mon avis totalement personnel et peut-être que Quentin a un avis différent, mais à mon avis, le cinéma et ce film et d'autres types de films ont un double objectif qui est le premier, c'est celui du divertissement. Alors le film n'est pas divertissant au sens où c'est pas les tuches. On va être d'accord. Mais en tout cas, de raconter une histoire, mais au travers de cette histoire, d'essayer de sensibiliser quand même les gens à, aux dangers que nous allons être auxquels nous allons être confrontés dans le futur, de réchauffement climatique, d'incendie. C'est une tradition du cinéma, hein, depuis les années 50, depuis le cinéma catastrophiste, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, enfin tous les films au Japon sur Godzilla et sur la menace nucléaire. Enfin, le cinéma a toujours utilisé ces thèmes-là parce que effectivement, ils sont assez porteurs, ils sont tous immédiatement visuels. Mais je pense qu'au-delà de ça, et c'était un peu la démarche qu'on a eue dans Plein Feu, c'était quand même de s'inscrire dans un truc très réaliste. Et effectivement, enfin, je ne sais pas, mais j'espère que ce côté, et on s'est beaucoup aidé pour le coup, on a été beaucoup aidé par les pompiers de la région. Il y avait vraiment, au-delà de l'histoire à raconter, la place de l'imaginaire, elle est là, mais l'idée, c'est quand même effectivement de porter un vrai message et d'accompagner une vraie réflexion sur le réchauffement climatique, les catastrophes climatiques auxquelles on va être confronté. Alors évidemment, il faut les traiter, pardon, il faut les traiter d'une manière qui fasse que ça ne soit pas un film documentaire et qu'on va être plus immédiatement projeté dans l'histoire. Mais cette démarche, elle est, à mon avis, elle est nécessaire. Et c'est un rôle qu'on a à jouer. À ce titre, enfin moi là, j'ai pris récemment les droits d'un livre post-apocalyptique aussi sur justement le contexte écologique et la manière dont malheureusement les choses pourraient se passer si on ne fait rien. Et je pense qu'on est au-delà du film, il y a un vrai message à faire passer et le réel, en quelque sorte, là, prend le pas sur l'imaginaire, clairement.
Oui, du coup, et puis finalement, l'imaginaire, la fiction, comme vous le dites, c'est pas un documentaire, c'est une fiction, va nourrir une démarche de prévention, au
exactement,
final.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... c'est évidemment le... C'est un corollaire du film. On ne fait pas un film en se disant « je vais faire un film pour aider à la prévention ». Mais au fur et à mesure, enfin moi en tout cas, et Quentin je pensais pareil, au fur et à mesure qu'on a commencé à réfléchir à ce film, à se plonger dans des études précises de... typiquement, moi j'étais très... Quand Quentin m'a livré une première version du scénario, mon premier réflexe a été de lui dire « c'est pas crédible ». Le vent qui tourne comme ça et des gens qui se retrouvent pris dans une colonne de feu, bah non, mais en fait si. Et je pense qu'on a un rôle là-dessus à jouer qui n'est pas évident parce que si on est que je fais pas non plus je n'ai pas produit le documentaire d'Al Gore sur le réchauffement climatique, enfin c'était pas ça, on voulait faire un film de cinéma, mais si ce film de cinéma il peut également alimenter cette réflexion, c'est pas mal.
Et puis c'est aussi notre monde, il parle aussi, il est en écho avec l'état du monde, voilà, malheureusement, et je trouve qu'il y a aussi un écho avec l'état intérieur du personnage, et je crois que tous ces faits extérieurs à nous, ils ont aussi un impact psychologique.
Un impact psychologique fort sur les personnages, sur le personnage d'Alex Lutz, sur... effectivement ce que vit André Dussolier, toute la trajectoire de la dernière partie de « il faut effectivement rejoindre la mer », c'est ce parcours intérieur que vit le personnage d'Alex Lutz, il a effectivement à mon avis une grande résonance quand même sur ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, je suis content que vous l'ayez pris comme ça.
Merci beaucoup. On va continuer peut-être le tour avec vous, Sébastien Lavigne. Et j'ai une question à vous poser aussi. Et puis ensuite, comme ça, on aura le temps d'échanger aussi entre nous. Et évidemment, je vous invite à réfléchir et éventuellement même à noter si vous avez des questions à poser aux uns et aux autres. Vous pouvez le noter. N'oubliez pas vos questions pour tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, Sébastien, dans votre métier, à vous, dans vos activités qui sont très, très concrètes, et ce serait intéressant que vous nous dévoiliez un petit peu, c'est quoi votre travail, rapidement. Et puis, c'est un petit peu la même question, comment cet imaginaire, est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas dans les messages peut-être à transmettre, que ce soit vis-à-vis des populations ou vis-à-vis des agents aussi, comment ça se construit en fait, parce que comme le disait très bien Serge Tisseron, un imaginaire efficace, une utopie, comme il le dit très bien à sa manière à lui, ça joue si c'est partagé. En fait, si on est seul, ça ne joue pas. Et donc, cette question du partage, ça m'intéresse de savoir déjà qu'on connaisse un petit peu mieux aussi votre activité. Vous nous en disiez plus là-dessus.
Très bien. Alors oui, pour vous présenter un petit peu mon métier, alors je suis effectivement dans des choses très, très concrètes. Hein. Je ne suis pas dans la création artistique. Mon travail, c'est effectivement de préparer l'organisation de Bordeaux Métropole, les communes du territoire aux situations de crise, aux situations d'urgence. Et donc mes activités donc, m'amènent à finalement travailler aussi un petit peu sur l'imaginaire, de se dire qu'est-ce qui peut arriver sur ce territoire par rapport aux connaissances dont on dispose, mais également aux perspectives que nous donnent peut-être les évolutions du climat, les études notamment du GIEC, qui nous donnent finalement une image de notre territoire et des risques et des vulnérabilités auxquelles notre territoire est exposé. Et donc mon travail, ça va être finalement d'essayer d'anticiper et de prévoir les conséquences de tels événements sur notre territoire. Alors, c'est vrai que quand on me voit arriver, où j'ai souvent une image de dire « Ouh, c'est Monsieur Catastrophe », quand je passe des coups de fil au directeur général des services ou aux élus, ils disent « Ouh là là, quand ils voient mon numéro s'afficher, ils ont parfois des sueurs froides. Qu'est-ce que vous allez nous annoncer ?» Et ça fait un peu référence à ce que disait Serge Tisseron sur les questions de déni qui sont aussi au cœur de nos organisations, parce que c'est un biais, cognitif qui est partagé par tout un chacun. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder ailleurs, on voit le mur arriver, on a tous les indicateurs aujourd'hui qui nous indiquent que on ne va pas dans le bon sens et que les événements auxquels notre territoire est exposé, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé, mais on sait qu'on va vers des événements qui vont venir nous bousculer dans nos quotidiens. Et donc, c'est vrai que j'essaye d'essayer de monter cet éveil auprès de l'ensemble des collaborateurs, d'une grosse collectivité hein, et des communes de Bordeaux Métropole. Effectivement, parce que je ne vais pas le traiter tout seul. Mon travail, c'est finalement que les choses fonctionnent un petit peu sans moi et que je suis là peut-être pour les accompagner à la gestion de ces événements et donner finalement des outils, des process pour permettre la gestion de ces événements. Alors effectivement, on scénarise, on fait des scénarios et on imagine ce que pourraient être les conséquences de tels scénarios. Et pour aller un peu plus loin, je travaille justement à créer des exercices où je mets les gens en situation. C'est-à-dire que là, on va finalement, un peu à l'instar d'un scénariste, écrire des scénarios, ce qu'on appelle des chronogrammes dans notre jargon, c'est-à-dire de faire sur une temporalité qui peut être accélérée ou réelle des événements. Et ensuite, les événements s'enchaînent et on observe, on analyse un petit peu comment les gens et les organisations, finalement, hein, c'est pas une analyse individuelle que l'on fait, c'est une analyse de l'organisation et d'un collectif qui va être confronté à une situation plus ou moins complexe, qui va les amener à devoir prendre des décisions, à devoir dépasser leur fonctionnement du quotidien. Et voilà, mon travail sert justement à leur faire prendre conscience des risques et des conséquences de ce que peut être notre territoire. Alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pousser un petit peu les curseurs pour leur faire toucher du doigt ce que pourrait être la réalité de demain. Voilà. Donc ça, on écrit des scénarios sur notre territoire hein, où on imagine des inondations majeures avec des surfaces assez importantes. Mais alors on ne se base pas sur n'importe quoi, hein, on se base sur des modèles hydrauliques, sur des défaillances de digues qui pourraient survenir, qu'on ne maîtriserait pas et qui pourraient venir noyer, inonder des territoires qui se croient peut-être isolés, en tout cas protégés, et pour lesquels, à la fois, les organisations, les services vont devoir se mobiliser, mais également aussi mobiliser la population. Voilà. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on tend aussi à essayer d'associer la population à ces scénarios. C'est, de notre point de vue, très important, hein, parce que le citoyen est le premier acteur de sa sécurité, hein. C'est quelque chose qui est essentiel et c'est la base d'une bonne gestion de crise, c'est-à-dire d'avoir des bons comportements, des gens qui se réfèrent aux messages des autorités, qui auront préparé, qui auront un petit peu anticipé et qui auront finalement aussi eux-mêmes, de leur point de vue, modéliser un petit peu ce type d'événement, de ne pas être complètement sidéré et de découvrir finalement qu'eux aussi, ils habitent en zone inondable. Malheureusement, on le voit encore trop souvent quand surviennent des catastrophes en France. Bien souvent, on s'aperçoit que les gens découvrent qu'ils étaient exposés à ces risques. Et ça, c'est encore malheureux. Il faut qu'on avance vraiment sur ces sujets-là. La FPCNT, enfin, tous les acteurs travaillent à faire avancer ces sujets-là, mais c'est un enjeu très très fort pour notre pays.
Merci beaucoup. Et du coup, je vais me permettre de bouleverser un peu l'ordre que j'avais prévu et de vous donner la parole, Virginie, parce que vous avez cité la FPCNT et sur cette question de culture du risque qui est votre travail, d'action mise en place. Enfin, ça rejoint quand même beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Et ce serait intéressant de connaître un petit peu votre métier, en fait. C'est quoi vos activités pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Merci.
Alors merci Benoît pour cette question. Je pense que mon métier et notre mission au sein de la FPCNT, c'est de permettre des événements comme aujourd'hui, c'est-à-dire de se retrouver enfants, adultes, multigénérationnels, multi-associations aussi, en associant des villes comme celle qui nous reçoit ce soir, la ville de Bègle. Réfléchir de manière transversale à comment innover, comment transmettre ses connaissances sur les inondations, sur les séismes, de manière peut-être un peu plus légère que ce qui peut être transmis dans le cadre scolaire. mais aussi de le transformer en réalisation commune, réalisation individuelle, réalisation collective, où tous ensemble, on va pouvoir œuvrer. Voilà, œuvrer à cette culture du risque, parce qu'on sait très bien que la culture est à la fois issue d'un cadre réglementaire, mais aussi de notre positionnement en tant que citoyen dans notre société, où on s'épanouit, on construit ensemble, on œuvre, et les artistes sont là pour nous rappeler aussi toute cette sensibilité qui fait écho à la création culturelle. C'est ce qui nous bâtit chaque jour, c'est notre patrimoine. Et la FPCNT est là pour établir ce lien entre le gouvernement qui a cet objectif qui est celui du tous résilient face au risque, l'objectif que chaque citoyen soit acteur de sa propre sécurité et ses connaissances, et le lien avec les collectivités et la population. Et quelque part, on a aussi ce surnom de ciment intelligent. C'est-à-dire qu'on va être capable de regrouper différents types d'acteurs de manière souple et agile en tant qu'association pour lier les différentes composantes de la société civile avec le gouvernement pour avancer tous ensemble, être mieux préparés et ne plus découvrir a posteriori qu'on est en zone inondable, en zone sismique, ne plus subir les catastrophes mais être en capacité d'anticiper.
Merci beaucoup. Alors, je vais vous passer la parole, commandant David Brunner. Vous êtes peut-être, on est tous sur le terrain à un certain endroit. Enfin, vous êtes sur le terrain encore plus concret peut-être que nous tous autour de cette table, et sur toutes ces questions de préparation, de lien aux populations, de préparation des populations et de vous-même et de vos collègues. Comment ça se passe?
Alors la finalité du terrain, c'est aussi la préparation. Pour revenir à ce qui était dit au départ et à l'imaginaire, nous l'imaginaire, c'est ce qui va nous servir à préparer l'intervention et finalement le curatif. Si on prend un cercle vertueux qui pourrait être celui de la résilience dans les services de secours, c'est une préparation à une intervention où on imagine une situation, hein, ce que fait Sébastien au niveau de la métropole. Une fois qu'on a imaginé cette situation, on met en face des moyens et des actions qui vont venir dans un premier temps sauvegarder les populations. Ensuite, essayer de mettre fin au péril et accompagner un retour à la vie normale. Tout ce cercle-là, une fois le retour à la vie normale de réaliser, on a une phase qui est absolument indispensable dans la réflexion et dans la préparation de la crise d'après, c'est le retour d'expérience. Et le retour d'expérience, c'est s'inspirer de ce qui s'est passé pour à la fois mieux se préparer la fois d'après, mais surtout avoir un coup d'avance sur le phénomène. Pour revenir à quelques phénomènes récents et à l'impréparation ou au déni des populations, lorsque nous avons eu, en l'espace des cinq dernières années, peut-être les crises climatiques les plus importantes qu'ait connues dans le siècle notre département. 2021, tout d'abord, inondation dans le secteur du Réolais du Langonnet, qui étaient les pires inondations que l'on ait connues depuis 40 ans, puisque les dernières crues majeures avaient eu lieu en 1981. Pourtant, on s'aperçoit que des maisons qui avaient été construites sur des zones connues pour être inondables, parce que les casiers de la plaine de Bassane, etc., sont des casiers dont on sait parfaitement qu'à partir du moment où il y a une rupture de digue et qu'on a des crues sur la Garonne, eh bien, ces casiers sont totalement inondables. Les habitations, on va dire, historiques, avec l'étage dédié à l'habitation et le rez-de-chaussée dédié au stockage ou au stationnement de véhicules, étaient devenus des espaces de vie. C'est-à-dire pourquoi on a un rez-de-chaussée qui finalement ne sert à rien qu'à garer la voiture, qu'à stocker quelques outils. Eh bien, on manque de place, mais on y aménage la pièce de vie, on y aménage la chambre parentale avec la salle de bain, et donc on se met en péril parce que, en pleine nuit, lorsque le casier lâche, on n'est plus à l'étage de la maison, on est au rez-de-chaussée. Donc, avec le temps, on s'habitue aussi à vivre avec le risque. Et finalement, ce qui nous contraint à devoir nous préparer, on l'oublie et puis on dit, bon, finalement, ça fait 10 ans que c'est pas arrivé, ça fait 15 ans que c'est pas arrivé, et pourtant, le risque est toujours là. Et quand vous regardez une carte de la Gironde et surtout une carte en relief, hein, les plus anciens connaîtront ça, hein, vous verrez bien que ces endroits-là sont des endroits qui sont facilement inondables dès qu'on a une crue de la Garonne, dès qu'on a une différence de conjonction entre différentes crues. Et puis il y a les feux. 2022, on n'avait pas connu ça depuis 1949. Alors on a une particularité dans les Landes de Gascogne, c'est que c'est un massif qui est un massif exploité. Et donc, ce qu'on appelle le risque ou l'aléa du risque, il évolue en fonction de l'exploitation de ce massif. Les feux de 49, ils sont très liés à ce qui s'est passé dans la décennie précédente, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et l'absence d'entretien du massif. Et donc, dès 1947, on a des feux majeurs, et une conjonction de plusieurs feux arrive à la catastrophe de 1949 avec 82 morts dans la région de Saucade. Et puis 2022, finalement, on a un massif qui a vécu quoi ? Qui a vécu les tempêtes de 1999, qui a vécu les tempêtes de 2009 et qui est dans sa période la plus sensible. C'est-à-dire un massif qui a entre 10 et 20 ans de vie. On a un phénomène climatique aussi dû à ce dérèglement climatique avec des températures relativement inédites, avec un taux d'humidité très bas. Et pour l'été 2022, la conjonction de deux feux majeurs qui débutent sur le département et forcément des choix matériels, des choix humains à faire. La sauvegarde des populations, et là encore, certains oublient dans la prévention du risque. Quand vous avez des petits villages au cœur des Landes, où finalement la survie de l'école du village, c'est de construire un lotissement avec des petites parcelles pour que les gens puissent avoir leur petit lopin de terre, vivre avec leur famille en dehors peut-être de grands immeubles urbains, eh bien ils se retrouvent dans ces villages, ils sauvent l'école, mais derrière ils s'exposent à cette aléa de risque. Donc on a oublié, au fur et à mesure, on a oublié que dans les Landes, on construisait des aérials pour être protégé du feu. On a oublié tout un tas de choses parce que le temps fait et que les catastrophes sont par nature un faible aléa avec des effets majeurs. Et c'est toute la difficulté quand on travaille sur de la prévention, de faire comprendre ça aux gens. Alors le risque routier, il est admis parce que je ne veux pas dire que tous les jours on croise un accident de la circulation, mais pas loin. Par contre, le risque de feu de forêt majeur, le risque d'inondation, les gens y sont beaucoup moins sensibles. Et puis après, il y a le fait de se prendre en charge. Aujourd'hui, sur le territoire national, il y a 250 000 sapeurs-pompiers. 198 000 sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont un engagement citoyen libre consenti au profit de leurs propres concitoyens. Et on n'aura pas demain un pompier devant chaque maison. Ça a été le cas en 2022. Donc on fait des choix. On fait effectivement des choix d'évacuation. Et bravo à l'auteur du film pour l'imaginaire sur les images et les sons associés. Pour avoir été aux manettes en 2022, je peux vous dire que c'est extrêmement proche. Pour ne pas dire, vous disiez pas documentaire, si le fond de l'histoire, si la scénarisation et la fiction étaient là dans ce que subissaient les personnages, l'environnement dans lequel ils étaient plongés, je peux vous dire qu'on est très loin de la fiction. On est beaucoup plus proche du documentaire et de la réalité. Mais ça prouve encore que il faut que cet imaginaire-là ne soit pas dire « bon, ça peut arriver une fois de temps en temps ». Non. La preuve, c'est que parfois on l'a, et quand les gens sont victimes, ils se retournent bien souvent vers ceux qui préparent la crise en disant qu'ils l'ont mal préparée, mais ils ne se posent pas la question si eux l'ont bien imaginé.
Merci beaucoup. Ça nous ramène à nos responsabilités individuelles et puis individuelles dans le collectif aussi, parce qu'on est acteur hein, du collectif. On est, je sais pas, en tant que parent, on est responsable aussi pour nos enfants. Enfin, c'est pas juste soi. Et merci de nous tirer les oreilles, si je puis dire. Et Eric Meyer, sur au niveau tout ce qu'on a abordé là, des responsabilités collectives et individuel et de l'articulation entre les deux. Comment ça se passe au niveau d'une ville comme la ville de Bègles? Comment ça se prépare? Est-ce que ça se prépare? Comment et quelles sont aussi les relations avec les différents acteurs, les différents services, les partenaires à d'autres niveaux de collectivité? Enfin, comment c'est quoi votre action à vous sur ces sujets-là en tant que DGA?
Alors moi, pardon. À la mairie de Bègles, je suis donc directeur général adjoint. Je suis plus particulièrement en charge des questions de la transition écologique. Donc, je dirais que je situe notre action aujourd'hui, enfin l'action que nous pouvons mener au niveau d'une collectivité à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau qu'on pourrait appeler du concret, du hard, c'est-à-dire aujourd'hui comment on aménage le territoire. En imaginant effectivement le futur de ce territoire. Et aujourd'hui, malheureusement, les alertes qu'on peut avoir sur l'évolution du climat, y compris dans des régions comme la nôtre, qui sont des régions tempérées, donc des régions qui dans le monde sont parmi les régions les plus agréables à vivre, qui se préparent sans doute dans des années qu'on croyait très lointaines et qui vont sans doute se rapprocher de plus en plus vite, à des conditions de vie qui vont provoquer un certain nombre de catastrophes, mais aussi changer le quotidien des gens. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est aménager le territoire en termes, par exemple, de végétalisation, de lieux où les gens, y compris maintenant, dans des périodes où, par exemple, cet été, on n'a pas parlé de catastrophe, mais il y a eu des périodes où il a fait très chaud et dans certains foyers, dans des logements mal isolés, etc., on avait des personnes qui souffraient fortement de la chaleur sans qu'on soit finalement, je crois, malheureusement aussi, dans une période qui est exceptionnelle et qu'on ne reverra que dans 20 ans. Je crois qu'on le reverra de plus en plus. Donc ça, c'est notre premier travail. Ce travail, on le mène également, je dirais, en direction de la population. Nous avons, essayé de reprendre un peu les expériences de ce qu'on a pu vivre. Notamment, je parlerai de deux situations qui sont des risques environnementaux qu'on a sur notre commune. Le premier, ce sont les inondations, pour lesquelles un travail extrêmement important de gestion de l'eau sur l'ensemble de la métropole fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de catastrophe majeure dès lors qu'on a quelques débordements de la Garonne. Mais il y a 20 ou 30 ans, les résultats d'un débordement annuel de la Garonne provoquaient des inconforts de vie pour les gens, des inondations de caves. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui est liée au réchauffement climatique, c'est les questions de la canicule. Les canicules que nous avons vécues il y a quelques années en France et pour lesquelles nous étions très désorganisés, dont il faut savoir quand même qu'elles ont accéléré un certain nombre de décès prématurés chez des personnes fragiles, des personnes âgées. Et on s'est aperçu qu'on avait beau habiter dans un territoire urbain, mais l'isolation des personnes seules, par exemple, chez elles, était importante et personne ne leur avait porté attention sur leurs conditions de vie. Donc ça, nous, par exemple, on a mis en place ça sur l'ensemble du territoire de la commune. On a un plan canicule qui s'active au fur et à mesure que les alertes préfectorales sur les périodes de canicule nous sont transmises. Et on a un réseau de citoyens, en même temps qu'un réseau de professionnels, qui va être attentif aux conditions de vie des plus fragiles sur le territoire. Donc je dirais que là, on n'a pas besoin de compétences particulières, on a surtout besoin de retrouver de la cohésion sociale, de l'attention par rapport aux gens qui vivent autour de nous. Donc ça, je dirais, c'est dans des situations, je dirais, pré-catastrophiques ou des situations qui vont devenir des situations normales. Et puis la deuxième action qu'on mène sur notre territoire, c'est, bon, bien entendu, toutes les actions d'atténuation des effets de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, donc tout ce qui va être économie d'énergie, développement des mobilités douces, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Et en plus, là maintenant, depuis 3 ou 4 ans, on travaille énormément en termes de prévention et d'aider aux citoyens, et notamment aux jeunes citoyens, à comprendre et à s'imprégner un peu dans leur imaginaire des mécanismes qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Alors, les premières actions qu'on fait, on a des ateliers comme la fresque du climat, pour ceux qui en ont entendu parler, etc. Ce qu'on a retenu de la fresque du climat, c'est que le retour des participants est souvent négatif, c'est-à-dire j'ai peur, je suis inquiet je peux rien faire, etc. Et donc on a mis d'autres ateliers derrière, des ateliers justement sur qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Parce qu'on entend beaucoup au niveau des gens, de dire « mais à quoi ça serve que je mange moins de viande ? À quoi ça serve que je ne prenne pas ma voiture ?» Alors que y a d'autres pays où ils ne font rien. Voilà. Donc on est dans une démarche de prise de conscience non catastrophée de ce qu'il va advenir de nos conditions de vie sur nos territoires, mais malgré tout en essayant de faire en sorte que les gens passent assez rapidement ou le plus rapidement possible à un rôle d'acteur pour faire en sorte que le train fou dans lequel on est embarqué commence un peu à ralentir, parce que je parle simplement de ralentir, je ne parle pas de s'arrêter, parce que là on est effectivement sur de l'utopie.
Merci beaucoup. On va passer un temps de questions, et après, comme on doit rendre la salle dans 10 petites minutes à 21h, on pourra, comme on est peu nombreux, on a un coup à boire hein, après, donc on pourra discuter aussi de en direct devant un coup à boire. Moi, j'ai deux questions que je vous pose à la cantonade. Il y a donc deux questions. Sur la question du déni, en fait, c'est-à-dire des gens qui... des personnes qui sont dans le déni et puis qui peuvent argumenter hein, leur déni. Comment, certes, ils seront en parle aussi, mais comment on aborde ces personnes qui peut-être ont encore plus besoin que les autres d'avancer en conscience, mais qui résistent. Voilà, je voulais savoir si vous aviez un petit peu un avis les uns les autres là-dessus. Et puis, autre question, je vous donne les deux, et comme ça, on discute comme on veut. Il y a la question des individus, des citoyennes et des citoyens, et puis la question aussi des entreprises, des industriels, etc., des centres de données, enfin, tout ce qu'on peut, de l'intelligence artificielle qui est assez catastrophique, dit-on, sur les questions écologiques. Enfin bon, du coup, voilà, il y a la question des individus et de la part des individus et la part des collectivités aussi. Ça m'intéresse d'avoir vos points de vue là-dessus.
En ce qui me concerne et l'impact que peut avoir le cinéma et que des gens comme moi peuvent avoir est beaucoup moindre que celui que vous pouvez tous avoir ici, parce que je ne sauve pas de vie directement. Je pense que malheureusement, oui, il y a un certain nombre de gens qui sont dans le déni. Je ne sais pas si ces gens-là, on réussira à les récupérer. Effectivement, il faut y travailler. Je pense que la vraie cible, le vrai objectif, et à ce titre-là, je pense que le cinéma et l'image et l'imaginaire a un vrai rôle à jouer. C'est, et c'est ce que vous faites aujourd'hui typiquement avec cette journée, c'est dans le domaine de l'éducation des jeunes qui sont naturellement beaucoup plus sensibilisés à toutes ces questions écologiques de réchauffement climatique, et je pense que le vrai effort, il est à faire à ce niveau-là, et à ce titre-là, peut-être que le cinéma a aussi son rôle à jouer dans ce le cinéma, la télé, Netflix, Amazon, ou les films comme En plein feu, ou des films comme Wall-E, qui sont des films post-apocalyptiques et qui traduisent de ce que pourrait devenir le monde si comme vous le dites, on n'essaye pas de ralentir un petit peu le train, quoi. L'arrêter, ça va être compliqué, mais au moins de ralentir. Je pense que là-dessus, enfin, il faut vraiment, enfin, peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut se dire, ben voilà, il y a des gens effectivement qu'on ne réussira jamais à rallier à cette cause-là, mais j'ai le sentiment que sur toute une jeune génération, elle est prête à entendre ce discours et que c'est là-dessus qu'il faut vraiment porter l'emphase, à mon avis. Enfin,
merci beaucoup, peut-être, oui, et puis ensuite, peut-être, je vous laisserai le mot de la fin, parce qu'ensuite, comme on doit rendre la salle, on continuera la discussion en buvant un coup.
Juste sur cette question du déni, peut-être qu'un des axes qui permet peut-être de le dépasser, c'est peut-être la question du concernement, c'est-à-dire d'essayer, malgré tout, de raccrocher les messages qu'on peut donner à de la proximité, au quotidien. C'est-à-dire de rapprocher la personne à qui on s'adresse, de l'ancrer, le message, ancrer les informations au territoire. Et de ne pas avoir quelque chose qui soit très éloigné, parce que c'est un biais aussi, quand on voit des incendies en Californie, quand on voit des incendies en Australie, ou des grandes inondations sur d'autres territoires qui sont à des centaines ou des milliers de kilomètres, ben, on se sent moins concerné. Par contre, quand on raccroche des éléments très très factuels sur l'évolution d'un territoire, sur des choses, sur la manière dont il évolue, sur les études qui concernent spécifiquement, même avec des cartes, c'est-à-dire mettre des gens sur des cartes et positionner ben, votre école, l'EHPAD où vous avez votre maman ou votre grand-mère, et ainsi de suite, votre lieu de vie, vos espaces de vie. Et quand vous les mettez en lien avec bah, des cartes d'aléas, et vous voyez les emprises que certains aléas peuvent avoir, vous dites « Ah ouais, c'est chez moi. Ah, peut-être que... » Et là, peut-être qu'on peut commencer à construire finalement un imaginaire autour de ces enjeux. Alors, on n'arrivera pas à traiter toutes les questions de déni, mais pour nous, en tout cas, c'est un axe ou une stratégie qu'on essaye d'opérer pour raccrocher les gens à leur territoire et faire passer ces messages-là.
Merci et grand merci à vous pour voilà, tout ce qu'on a appris grâce à vous. Merci beaucoup.